Sol majeur.
Un sol majeur.
Il a connu le rideau de fer, puis l'exil et la clandestinité, mais aujourd'hui qu'il vit en France et qu'il est édité au Seuil, il n'en fait pas tout un fromage littéraire, ou disons plutôt que son fromage littéraire n'est fait que de littérature. Exit la biographie, l'autobiographie, Pavelak veut que ses romans soient à la hauteur d'une expérience qui ne regarde que son rideau de fer à lui. J'ai bien résumé ?
Non, pas vraiment, pas à moi, c'est vraiment impersonnel. La création, plus vous la poussez, plus elle devient impersonnelle. C'est pour ça qu'en fait, l'auteur, si vous recevez un vrai écrivain, je pense qu'il n'y aura strictement rien à dire, puisque cette activité devient assez impersonnelle. Mmh. Et les enjeux de cette activité, c'est vraiment le monde, les existences qu'on essaye montrer d'abord de représenter.
Bon, mon vœu n'est pas de vous réduire en tout cas, pardon. Alors à la question importante, en tout cas j'imagine pour un auteur, quels sont les sons que vous aimez, Pavelak? Vous avez répondu Antonin Artaud. Donc on écoute la progression rythmique et thématique de sa voix et on en parle juste après.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être.
L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier. Comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort.
Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive.
Avant de me suicider, je demande qu'on m'assure la lettre. Je voudrais être sûr de la mort. La vie même apparaît que quand un consentement à la lisibilité apparente des choses et à leur liaison dans l'esprit.
Alors Pavelak, que dire sur Artaud, l'inventeur du théâtre de la cruauté ?
Ce qui me touche, c'est le personnage, la voix. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette voix. Et je lisais, en fait, Artaud, ses cahiers, quand je travaillais la nuit dans un hôtel en face de Sainte-Anne. C'est un hasard, mais je ne sais pas. Je pense que Artaud est un cas extrême de cette entreprise qu'est la littérature. On peut réfléchir sur lui de multiples manières. Entre autres, il ne faut pas devenir fou. Si on s'attaque vraiment aux choses, on a évoqué Picasso, Stravinsky tout à l'heure. Un vrai artiste s'attaque à quelque chose qui le dépasse d'énorme. Donc, il est assez naturel de devenir fou, je pense. Et je pense qu'Antonin Artaud est un cas voilà, extrême. Et à la fois, à l'écouter comme ça, ça me touche. Je pense qu'il serait très, très proche de toutes ces existences qu'on a évoquées tout à l'heure, les immigrés, tous ces gens qui vivent. Ou qui n'émigrent pas, mais qui vivent ce pourquoi on aurait envie de partir, voilà, quitter ces pays qui sont dans la misère, qui sont dans la guerre. Donc pour moi, c'est voilà, Stravinsky, Picasso, c'est des existences qui maîtrisent à merveille toutes ces difficultés, alors que Artaud, il en souffre, il en pâtit, mais il n'est pas moins touchant pour cela. Voilà,
il voulait, je crois, que le réel s'immisce un petit peu dans l'art, donc il a utilisé tous les moyens dont il disposait, jusqu'à la drogue. Est-ce que vous, c'est la guerre que vous avez expérimentée pour aboutir à aujourd'hui, je ne sais pas si je vais un peu loin, je pousse un peu le bouchon peut-être, à une écriture de la cruauté ?
Je sais pas, mais la guerre, c'est quelque chose que nous vivons, en fait. C'est vraiment un des éléments déterminants du monde actuel, à mon avis. Alors, bien sûr, nous sommes à Paris, nous sommes en France et nous sommes protégés. On remarque qu'il y a, en fait, plus de suicides à France Télécom. Il y a plus de morts à France Télécom que dans notre armée en Afghanistan. Bon, maintenant, il paraît que l'armée paye pour qu'on ne les tue pas. Mais tout ça, c'est assez passionnant. Il faudrait peut-être un Baudrillard ou un penseur qui vraiment pense cela fortement, puisque c'est quand même assez inquiétant, vous comprenez. La guerre, elle est à France Télécom et pas en Afghanistan. Je ne sais pas comment réagir, mais ça me semble très, très intéressant. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui me touche, c'est peut-être personnel, mais ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui à Bagdad, avec tous ces attentats, au-delà de qui les commet et comment, puisque tout ça, il faudrait le réfléchir, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement difficile, brutal et tragique. Et regardez la nouvelle administration américaine, quel problème elle a avec les réglages de cette affaire, voilà, qui est l'œuvre des deux administrations précédentes. Et cela, je sais, comme homme, comme être humain, je me sens impliqué, je ne sais pas, je ne peux pas ne pas les voir avec toutes ces choses qui vont avec, les armes, les industries d'armement, Angola Gate, c'est passionnant quand même, on emporte les armes quelque part, pourquoi, qui se tue avec, quoi, je ne sais pas, toutes ces choses, on ne peut pas les passer sous silence.
Mozart et son Don Giovanni attendent sur le pick-up d'un sol majeur. Alors Pavelec, j'ai découvert que la création de cet opéra a eu lieu en 1787, ça d'accord, mais à Prague. Car en fait, le livret était une commande du Théâtre National de Prague, vous le saviez, oh
hein bon. Oui, je le savais, oui, c'est assez touchant. Mais...
Vous êtes séduit musicalement par ce qu'on appelle le drame joyeux, c'est-à-dire le drama giocoso.
C'est en italien, attention, j'aime beaucoup cette dimension, j'aime beaucoup les opéras de Mozart, mais en italien. En allemand, c'est, je ne sais pas, j'ai un goût de, peut-être de la Méditerranée, je ne sais pas, l'italien. Va. Puisque c'est, vous savez, c'est en italien Don Giovanni. Et c'est vrai que c'est à Prague, c'est assez fantastique, cette première qui... Oui, j'ai choisi cet extrait puisque c'est pour peut-être ces deux voix, homme-femme, au-delà de l'histoire en fait, puisqu'on peut interpréter tout ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup, c'est juste les voix, voilà, l'échange entre un homme et une femme. Et les voix qui me fascinent en général, c'est...
Mozart, donc dans le programme en sol majeur de Pavelec.
Ma por darvi ancora, ma pure.
Don Giovanni de Mozart en sol majeur dans le programme de notre invité, le romancier Pavelak, né en 1962 en Tchécoslovaquie, débarqué clandestinement en Italie, un peu officiellement en France en 1985, sans connaître un traître mot de la langue de Molière.
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle ?
Pavelak.
C'est la question ?
C'est la question, oui.
Ah ben, je pense que tout ce qu'il y a d'intraduisible, ou ce qui est... Je ne sais pas, chaque langue, pour moi, les langues, c'est vraiment une sorte de... Chaque mot, chaque structure syntaxique renvoie à des choses spécifiques dans chaque langue. Donc, en fait, déjà la traduction, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, je pense. Et donc, le tchèque, l'italien, le français ou l'anglais, c'est les langues que je connais un peu, ou disons que j'ai étudié longuement le russe, par exemple, que j'ai dû refouler, justement, entièrement, comme acte de résistance, peut-être. On peut refouler la, puisque ça, c'est ambigu, puisque la langue russe représentait sans doute pour moi, à l'époque, l'envahisseur, l'occupant. Et évidemment, on est en résistance, on combat cela par les moyens dont on dispose. Bon, un enfant, par exemple, c'est difficile d'affronter les chars. Mais voilà, donc chaque langue, elles sont complexes, les langues. Il y a toute cette tonalité, toutes ces émotions qui vont avec, toute cette, même cette dimension, disons, affective que chaque langue véhicule. Et vous avez un mot qui en tchèque signifie quelque chose que, si on le traduit en français ou moi-même, vous traduisez pas ce qu'il y a dans ces mots, dans telle ou telle langue. Le français, c'est pareil. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très difficile. Je sais pas quelle était la question.
Mots que vous ne pourriez dire que dans votre langue maternelle. Vous en avez fait quoi de votre langue maternelle, Pavelak, vous qui écrivez maintenant depuis 4 ou 5 romans en français directement?
Oui, j'écris en français, et puis pour moi, il y a eu comme ça cette rupture brutale, puisque à cause de mon histoire personnelle, j'ai émigré, j'étais réfugié politique. Ça semble rétrospectivement très court, ce passage entre 86 et 89, en fait, mais quand j'étais là à l'époque, la perspective n'était absolument pas tel, ce changement était absolument envisageable. J'ai cru comprendre que même au moment où le mur tombe, les dirigeants français ne croient tout simplement pas ce qui s'est passé, ce qui est assez savoureux. Mais donc voilà, ce changement pour moi, les ponts étaient coupés, comme on dit, j'ai brûlé mes vaisseaux, et c'était l'histoire qui m'y forçait. Mais moi, je voulais partir, je voulais quitter ce pays,
et quitter
aussi ces régimes,
quitter l'alternative. C'était aussi quitter la langue maternelle.
Pays natal, la langue maternelle, tous ces termes me posent un peu des problèmes, puisque je crois, par exemple, pas la langue maternelle. Pourquoi maternelle, pourquoi pas paternelle, pourquoi pas les deux? C'est l'usage, on dit ça comme ça. Les rapports aux langues sont complexes, je crois, personnel, certainement. Pays natal, oui, je suis né là-bas, j'y tiens, j'aime. Il y a plusieurs aspects. Bien sûr, j'ai quitté ce pays parce que je n'aimais pas ni l'époque ni ce régime. Vous voyez, donc c'est ça, bien sûr. Mais quelque part, cette partie de l'Europe, je l'aime. Je l'aime bien, en tout cas, je l'aime. Puis j'aime beaucoup les choses. Je ne sais pas, quand je vais en Grèce ou la Méditerranée, j'adore. Mm. J'adore l'Italie, par exemple. C'est un pays magnifique. C'est la façon de vivre, comment vous allez dans un bar et tout. Ça n'existe pas en Bohème. Voilà, je sais pas, boire la bière, tout ça, j'ai résisté à ça quand j'étais jeune. Je sais pas, je me voulais poète et pas une sorte de buveur de bière. Ça c'est chaque pays, chaque histoire, voilà, mais...
Comment vous vous sentez dans la langue de Molière, que vous avez appris assez tardivement, je sais pas, autour de 25 ans, comme ça, ce qui est assez tard pour une langue?
Ça, je sais pas, c'est à vous de dire, c'est votre opinion, mais pour moi, non, je pense que la langue, sérieusement,
comment vous vous sentez?
On me questionne toujours, je sais pas, je sais écrire ou pas en français. Bon, voilà, voilà une langue que je l'ai prise, j'écris, en français, ça marche pas. C'est de la littérature, c'est pas de la littérature. Maintenant, les langues, à mon avis, on les apprend vivant surtout. Et il faut que cette langue soit vivante. Ça tourne autour du vivant quelque part. Voilà, donc même l'anglais, vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, vous vivez là-bas, cette langue où il y a une rencontre, où il n'y en a pas, à la limite.
Donc le tchèque est devenu une langue morte ou pas?
Non, elle n'est pas du tout morte pour moi, ni mon passé, ni quoi que ce soit. Mais je ne réfléchis pas dans cette langue, je n'écris pas dans cette langue. J'ai fait mes études en français. Ça, je ne sais pas, ça poserait des problèmes voilà, techniques de comment traduire les choses, puisqu'on pense, bien sûr, il y a des termes, il y a des concepts, et cela, on les apprend dans une langue. Déjà entre l'anglais et le français, il y a beaucoup de difficultés, par exemple, comment traduire certaines choses. Donc, il y a deux régimes différents. Plus c'est pointu, plus c'est évident. Donc, par exemple, en philosophie, oui, il faut se mettre d'accord sur les termes. Mais c'est un peu ça, la communication, les deux êtres humains qui se rencontrent. Parler, c'est pas évident. Il y a des termes, il faut s'entendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous que choisissez vos mots.
Cette conversation aurait dû avoir lieu en tchèque.
Přátelé, dokud máme možnost vám hovořit, činíme tak. A bohužel, místo rezolucí, které nám neustále posíláte a které jsou pořád v jednom smyslu, je tu zpráva mnohem vážnější. Rozhodla jedou směrem k Rýdrovým sadům.
Blíží to zřejmě finále. My chceme znovu podotknout, znovu důsledně upozornit.
Věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu.
Alors, Pavel Acre, situez-nous et peut-être traduisez-nous ce document de la radio tchécoslovaque.
C'est les 68, c'est ça? Moi, je demandais exactement la progression des chars. Et c'est là, j'ai l'impression que c'est des discours qui passaient peut-être à la radio. Peut-être c'est Dubček qui parle, c'est-à-dire
à l'époque
le président de la République, je crois. Et pour moi, oui, ça c'est une plongée dans l'histoire, dans mon enfance. Et je pense que ce qui est intéressant là, pour moi, c'est... En fait, je suis né en 62, donc je ne sais pas, 7 ans. Et pour cet enfant, là, c'était quelque chose d'un côté d'incompréhensible, cette ambiance. Et l'invasion n'était pas sanglante, donc ça c'est un facteur important. Il n'y avait pas la guerre, justement, telle qu'on la voit aujourd'hui, et quelle expérience on en a aujourd'hui, d'ailleurs, par la télévision, par les images qui nous parviennent.
Mais vous étiez où? Vous étiez dans la rue? Vous l'avez vécu comment, cet événement? À 6 ans.
Ah ben j'ai été chez moi, dans ma maison. Et je me souviens exactement d'une journée où justement les chars russes progressaient vers le village où j'étais. Et il y avait cette étrange ambiance que j'écoutais à la radio, qui était donc comme le dernier point de résistance, la progression. En fait, de ces chars, puisqu'on commente en direct la progression de ces chars. Et donc, il y avait cette étrange ambiance pour un enfant, puisque j'avais cet âge-là, 6-7 ans. On comprend rien, grosso modo, bien entendu, mais il y a de l'ambiance, étrange ambiance, c'est très important. Et puis, il y a ces chars qui, effectivement, arrivent là où j'étais. Je les vois arriver, frontalement, d'ailleurs. Ça, c'est peut-être un détail sur lequel j'ai réfléchi en allant chez vous pour faire cette émission. Cette arrivée des chars est frontale, pas latérale par exemple. Il est frontal parce qu'il y a, c'est sur un carrefour et il vient frontalement. Alors que normalement, il aurait dû venir de gauche d'ailleurs, latéralement. C'est arrivé des chars. Oui, c'est quelque chose de très fort, surtout pour cet enfant qui est bien entendu complètement désarmé, qui ne comprend pas. Et les chars, quand ils roulent sur vous, c'est impressionnant. D'où peut-être aussi, pour moi, c'est une plongée dans la politique, pour le dire brutalement. Alors qu'il n'y a rien de brutal, il n'y a pas d'explosion, ces chars ne tirent pas, par exemple, la maison n'est pas touchée par les obus ou quoi que ce soit. Donc imaginez quand c'est le cas. Mais je pense que c'est une plongée directe dans l'histoire et dans la politique. Et ces deux choses sont importantes pour moi, je constate aujourd'hui.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous êtes le seul rescapé. Vous rencontrez une créature de l'espace qui n'a jamais entendu parler de la France. Que lui dites-vous?
Qu'est-ce que vous lui dites de la France à cette créature de l'espace, Pavelak?
Je ne sais pas, mais si on se situe dans la perspective de notre émission, je pense qu'il y a, un des aspects importants en France, c'est que les immigrés respirent. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils étouffent. Voilà. C'est important. Et puis il y a, bien, pour moi, beaucoup d'aspects positifs. Par exemple, mes origines, je n'appartiens pas à un pays qui a été colonisé par la France ou tout ça. Donc, en effet, voilà la complexité de l'histoire, la complexité politique de chaque origine.
Mais vous avez vécu comment cet état d'être étranger en France? Je pose la question à l'heure où le débat national agité par Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale bat son plein.
Je pense que c'est difficile, je pense qu'il ne faut pas se cacher la vérité. Être en France, pour un étranger, c'est difficile. Je pense que c'est vraiment une sorte de... Et puis ça dépend, moi je suis blanc par exemple, donc quand je marche dans la rue, si je suis correctement habillé, mais vous voyez déjà ces impératifs, il faut être correctement habillé.
Vous avez un petit accent, il y a l'histoire de l'accent qui est intéressante.
mais en France, bien entendu, cette question qui nous envoie à l'avenir, elle est importante.
Le président Nicolas Sarkozy, pardon de le citer, mais enfin je crois qu'il est un peu à l'honneur en ce moment, il accorde à cette idée d'identité nationale une connotation symbolique, puisqu'il se dit attaché à l'hymne national, il se dit attaché au drapeau, à la culture et à la langue. Vous faites quelle idée de la nation?
Moi, symboliquement, je m'attacherais à cette petite... C'était une anecdote, en fait, mais je peux l'évoquer peut-être. Récemment, un des ministres, je crois que c'est un ministre, une ministre, Ramayad, elle a été renvoyée à ses origines dans un contexte très précis où elle a évoqué, d'ailleurs, comme moi, dans le roman, ça m'a étonné de sa part, un fossé entre les élites et le peuple ou la masse. Et moi, ça m'a choqué vraiment, c'est l'identité nationale, bien sûr, tout ce débat, bien sûr, tout ça. Mais le fait qu'on envoie cette jeune femme brillante, et en plus, elle participe à un gouvernement auquel je ne participerai pas, donc vraiment, je n'ai aucune raison de la défendre politiquement. Mais j'ai été vraiment choqué par ce renvoi. On la renvoie, elle, à ses origines, en l'occurrence africaine, peau noire et tout ça. Je ne sais pas comment on interpréterait la chose, si on l'interpréterait vraiment d'une manière un peu serrée. Mais moi, j'ai été choqué. Et je vois là tous ces problèmes dont on parle depuis une heure, avec toutes ces frictions qu'on a peut-être. Mais voilà.
Et donc, vous êtes choqué quand je vous renvoie, moi, ou disons l'humeur de l'époque, à vos origines? Est-ce que je dois vous présenter d'ailleurs comme un écrivain français d'origine tchèque ou un écrivain tchèque d'expression française? Qu'est-ce qui vous choque le moins?
Mais moi, je suis habitué à tout cela. C'est naturel désormais. Je ne sais pas, je me sens bien d'une certaine manière. Je suis en position de combat. Voilà. Il n'y a pas de débat ni de plainte à déposer de ma part. Je ne me suis jamais plaint de quoi que ce soit. Je vis. Il faut vivre avec force, il faut imposer, voilà, sa propre perspective, comme je l'ai fait en fait aujourd'hui ici. J'exprime mes propres idées, mais ma perspective à moi qui peut-être est différente ou ne convient pas, ou voilà, mais ça c'est la vie, il faut vivre
comme on l'entend.
En sol majeur @rfi.fr.
Merci Pavela. Je rappelle que votre terrible roman Warax est publié donc au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Et puis on va se quitter avec un clin d'œil à l'Afrique que vous chérissez. Vous avez d'ailleurs écrit, je crois, un premier roman qui s'appelle Safari sur l'Afrique. On va écouter Ali Farka Touré, que vous n'avez pas choisi parce que vous m'avez dit, ben moi j'y connais rien à la musique africaine, mais choisissez vous-même un morceau. Donc j'ai choisi Ali Farka Touré. L'Afrique, pourquoi alors? 40 secondes. Hein.
L'Afrique,
alors, si vous êtes radiophonique,
est un continent très fort pour moi. On a évoqué nos ancêtres africains, voilà. Et puis c'est un pays très très puissant à mon avis. Aussi un grand enjeu. On sait les matières premières. C'est un objet. C'est un. La politique tourne autour. Donc oui, c'est un continent très très fort, intéressant, et où il se passe beaucoup de choses.
Caroline Filliette, François Porcheron, Nicolas Doro, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain autour de l'accordéon argentin du grand Raoul Barbossa. Passez une bonne journée sur RFI.